Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Ingérence russe dans la vie politique autrichienne ou bien piège politicien. Une vidéo plonge l'extrême droite dans la tourmente et à l'instant, on vient de l'apprendre, son leader et vice-chancelier Heinz Christian Strache vient de démissionner. Correspondance de Vienne, Dizor Yas. Les conservateurs polonais, eux, souffrent d'un scandale qui abîme l'église accusée d'avoir couvert des actes pédophiles et l'église polonaise de nuire à ses alliés, les conservateurs du parti Droit et Justice. Quels impacts, quels acquis, quels débouchés politiques ose Emmanuel Macron après un semestre de contestation conduite par les Gilets jaunes? Analyse de Rosalie Lafarge. Puis la Bulle Écho, signée ce samedi Anne-Laure Chouin, s'intéresse aux difficultés du fret ferroviaire en rude concurrence avec la route. Confère le sort promis par le gouvernement cette semaine au train des primeurs Perpignan-Rungis. Les extrêmes droites européennes que Matteo Salvini, chef de la Ligue et ministre italien de l'Intérieur, a eu l'ambition de réunir aujourd'hui à Milan, feront sans l'une de ses importantes composantes, le FPE. Le chef du Parti de la Liberté d'Autriche, Heinz Christian Strache, vice-chancelier, vient de démissionner à l'instant. Il se fera donc probablement porté pâle à Milan. Crise politique à Vienne à la suite de la diffusion par deux journaux allemands d'une vidéo compromettante. La vidéo daterait de juillet 2017, soit trois mois avant les élections législatives. On peut y voir Heinz Christian Strache échanger avec une femme qui se fait passer pour la nièce d'un oligarque russe. Le leader d'extrême droite semble promettre l'attribution de marchés publics en l'échange d'un soutien notamment financier de la campagne du FPE. Les précisions d'Isor Yas, la correspondante de France Culture en Autriche.
C'est dans une villa d'Ibiza en Espagne que la discussion aurait eu lieu en juillet 2017 entre Heinz Christian Strache, chef du FPE, Johann Gudenus, membre éminent du parti, et une prétendue nièce d'oligarque russe accompagnée d'un homme. En fait, il s'agirait d'un piège, les deux Autrichiens sont filmés à leur insu. On entend tout de même distinctement Heinz Christian Strache proposer à son interlocutrice d'investir des millions d'euros dans le Kronenzeitung, le tabloïd le plus lu d'Autriche, afin de lui donner une orientation pro-FPE à quelques semaines des législatives. Le parti se chargerait ensuite d'écarter les plumes critiques. En échange de cet investissement, Strache promet à la jeune femme l'attribution de marchés publics une fois le parti installé au gouvernement. Il lui explique aussi qu'elle peut financer le FPE via une association, comme le feraient d'autres personnalités.
Il y a quelques personnes très fortunées qui versent de 500 000 à 1,5 million, voire 2 millions d'euros. Ils ne payent pas au parti, mais à une association à but non lucratif. Tu dois expliquer ça, une association. Tu dois expliquer que ça ne va pas à la Cour des comptes.
Les personnalités citées par le chef du FPE, notamment le fabricant d'armes autrichien Gaston Glock, ont nié tout transfert d'argent. Le FPE, lui, s'est défendu, dénonçant une vidéo tournée de manière illégale, vieille de 2 ans, mais publiée à seulement une semaine des élections européennes.
Heinz Christian Strache devait être remplacé par le ministre des Transports au poste donc de vice-chancelier par Norbert Hofer. La nébuleuse européenne des extrêmes droites à l'œuvre a bien l'intention d'influencer les débats et de faire du groupe Europe des Nations et des Libertés la troisième force du Parlement européen. Parviendront-ils à faire de l'ombre aux conservateurs? Des conservateurs polonais qui sont dans l'obligation de gérer eux aussi de fâcheuses révélations. Une semaine après la sortie d'un documentaire sur la pédophilie dans l'église, Seulement ne le dit à personne, qui cumule déjà près de 20 millions de vues sur YouTube. L'institution catholique est malmenée et par là même ses fidèles alliés, les conservateurs du PiS. Thomas Giraudeau nous appelle de Varsovie.
44% pour la coalition européenne contre 33% pour le PiS. Un gouffre sépare les deux mouvements dans un sondage réalisé après la sortie du documentaire sur la pédophilie. L'écart surprend quand d'autres études donnent toujours le PiS vainqueur des européennes. Il n'empêche, l'opposition libérale profite peut-être du succès du film. Wodzimierz Timoszewicz est tête de liste à Varsovie pour la coalition européenne.
J'ai rencontré des électeurs ces derniers jours et bien sûr tout le monde pensait et parlait de ce documentaire. Alors oui, cela peut avoir des conséquences politiques. À une semaine du scrutin, nous sommes leaders dans un sondage avec 11 points d'avance. Quelque chose est en train de se passer.
Qui lève la main sur l'Église, lève la main sur la Pologne. En affichant son soutien à l'Église durant cette campagne, le chef du PiS, Jarosław Kaczyński, ne s'attendait pas à en subir les conséquences aujourd'hui pour limiter les dégâts. le gouvernement a fait adopter dans l'urgence une loi plus répressive à l'encontre des pédophiles. Mais est-ce suffisant pour convaincre les Polonais? Jedrzej Bielecki est journaliste politique au quotidien Rzeczpospolita.
Maintenant, cette question de dépendance du PiS de l'aile super conservatrice de l'Église, je pense qu'elle n'est plus tellement d'actualité. Mais bien sûr, les gens, ils pensent que oui, le PiS est beaucoup plus lié à l'Église que la plateforme civique, la coalition européenne. Donc ça peut avoir une influence.
Pour Jedrzej Bielecki, tout dépend de quel public regarde le documentaire, s'il influence aussi le vote de la Pologne rurale, plus catholique et partisane des conservateurs au pouvoir.
À 8 jours du scrutin européen, la campagne en France gagne en intensité. Elle est forcément marquée par un semestre de contestation, dont celle des Gilets jaunes. Le chef de l'État, dont la formation La République En Marche, vise, elle, de rejoindre les libéraux à Strasbourg et de devenir cette fameuse troisième force du Parlement. Emmanuel Macron, qui n'a d'ailleurs jamais cessé de cibler le Rassemblement National, eh bien, a jugé hier que le mouvement des Gilets jaunes n'avait en tout cas plus de débouchés politiques. Question, que reste-t-il d'ailleurs du mouvement aujourd'hui? Élément de réponse avec vous, Rosalie Lafarge.
Il en reste d'abord des images fortes. L'Arc de Triomphe tagué, les Champs-Élysées saccagés, cet engin de chantier qui enfonce la porte d'un ministère, les poings du boxeur Christophe Détinger, l'œil perdu de Jérôme Rodriguez, cette manifestante de 73 ans blessée à Nice, l'intrusion à l'hôpital de la Salpêtrière, ce sont des images qui marquent et qui sûrement resteront. Depuis le début du mouvement, près de 50 000 manifestations ont été décomptées en France. Mais si le 17 novembre, plus de 280 000 personnes étaient mobilisées, samedi dernier, ils étaient moins de 20 000 gilets jaunes à manifester. C'est beaucoup moins, certes, mais le mouvement existe toujours. Les 17 milliards d'euros lâchés par Emmanuel Macron n'ont donc pas éteint la colère, mais ils l'ont peut-être apaisé. Le président est aujourd'hui revenu à sa cote de popularité d'avant la crise. Les gilets jaunes, eux, peinent à s'organiser. Les divisions du début sont toujours là. D'ailleurs, la relative adhésion des Français au mouvement ne semble pas se traduire en intention de vote aux européennes, et certaines figures de la contestation commencent à s'agacer. Dans une vidéo publiée sur Facebook, Éric Drouet dénonce l'accumulation de manifestations à thème. On s'éloigne des revendications principales, il faut arrêter ces conneries, dit-il, avant de proposer à toutes les figures du mouvement de se rassembler en un lieu, Paris, pour accorder les violons.
Une cause, la sauvegarde de la planète a elle aussi trouvé un rythme hebdomadaire. Ce samedi, dans 30 villes françaises, le collectif Combat Monsanto organise des marches pour dénoncer les activités de Bayer, Monsanto et des autres géants de l'agrochimie. Véronique Reberotte a sollicité Tom Baker, coordinateur de la marche parisienne.
Nous, ce qu'on demande, c'est l'interdiction la plus rapide possible du glyphosate en France, c'est-à-dire d'ici 2020, grand maximum, et un plan de sortie des pesticides de synthèse en général, la plus rapide possible. Donc le plan, ce serait un programme très précis, qui soit daté, qui permette en France de sortir des pesticides, parce que sortir du glyphosate n'implique pas de sortir de tous les pesticides de synthèse. On parle de plus en plus d'interdiction du glyphosate. En France, il y a de plus en plus de gens qui sont conscients des dangers de ces produits-là. Aux États-Unis, on voit que la justice est en train de répondre aux victimes avec les récentes condamnations de Bayer Monsanto. Il y a eu déjà 3 décisions de justice et il y en a encore 13 400 qui sont en cours d'instruction aux États-Unis. Et quand on voit la somme de dommages d'intérêt que doit déjà Bayer Monsanto à 3 victimes seulement, on se dit qu'avec 13 400, on signe peut-être la fin finalement économique de cette entreprise. Et les gens en fait sont de plus en plus conscients de ça. Et nous, vraiment, on ne vise pas les agriculteurs qui sont pris dans un système qui les enferme avec l'endettement, avec les pesticides, mais vraiment, on incite les pouvoirs publics à les soutenir financièrement pour qu'ils changent, qu'ils entament une transition agricole vers l'agriculture écologique. On sait très bien que cette agriculture écologique, elle est possible en France, elle peut nourrir, elle peut créer des emplois, et elle sortirait les agriculteurs d'une crise dans laquelle ils sont depuis des années en France. C'est pas nouveau. Le contexte n'a jamais été aussi favorable pour que les gens se mobilisent sur ces sujets-là, notamment avec les marches aussi pour le climat. Pour nous, tout est lié. Voilà.
Tom Baker du collectif Combat Monsanto. Une pique que Yannick Jadot, tête de liste d'Europe Écologie des Verts, a réservée à l'ancienne ministre de l'Environnement Ségolène Royal, qui s'apprête à soutenir la liste La République En Marche aux européennes de dimanche en 8. Je cite, les convictions écologiques de Ségolène Royal s'arrêtent là où commencent ses ambitions personnelles. Fin de citation. La défense antiaérienne du régime syrien prétend avoir intercepté des projectiles en provenance d'Israël, des corps lumineux qui ont été abattus selon l'agence officielle Sana. L'Observatoire syrien des droits de l'homme avance que 3 explosions ont retenti hier soir dans le sud-ouest de la capitale Damas. Au lendemain de la journée mondiale contre l'homophobie, focus sur le Cameroun, l'un des pays où l'homosexualité est encore réprimée dans le code pénal. 2 associations de lutte contre le sida, dont Humanity First Cameroun, publient leur quatrième rapport sur les violences exercées contre les personnes LGBT. D'après leur enquête, ces violences ont doublé. 578 témoignages en 2017 et 1134 cas répertoriés et vérifiés en 2018. Tara Schlegel.
Au Cameroun, l'homosexualité est punie de 5 ans de prison et la cybersexualité, autrement dit faire des avances sur les réseaux sociaux, peut conduire 2 ans derrière les barreaux. Cette criminalisation se double d'une stigmatisation très courante, beaucoup de violences psychologiques, mais aussi des arrestations abusives, plus de 60, sans respect des procédures. Par exemple, à Yaoundé, 7 hommes accusés de danser dans un bar sont arrêtés, placés 5 jours en détention. On leur vole tous leurs objets de valeur, portables, ordinateurs, on dévoile à leur famille leur orientation sexuelle supposée et même leur séropositivité pour finalement les relâcher faute de preuves. Autre pratique courante, le chantage, presque 200 cas l'an passé, autant de cas d'agression physique, les associations détaillent dans leur rapport plusieurs récits, avec au bout parfois la mort. Ainsi, 3 homosexuels ont été tués au Cameroun en 2018, dont le jeune Kenfak Toby, assassiné par son frère aîné sous les yeux de sa sœur qui n'a rien fait. Aucune enquête n'a été diligentée malgré un signalement au procureur. Les associations notent qu'en conséquence de ce climat, 1/3 des personnes LGBT sont sévèrement déprimées, quand la moyenne des dépressions est de 5% au Cameroun. Et puis, faute d'accès aux soins, en raison de cette stigmatisation, le sida progresse. 44% des hommes homosexuels à Yaoundé sont séropositifs.
La bulle économique, Anne-Laure Chouin.
Le gouvernement français a dit son intention cette semaine de supprimer le train des primeurs qui assure la liaison Perpignan-Rungis, moyennant la mise en circulation d'une 20aine de camions, tollé et sursis accordé par ce même gouvernement à cette liaison ferroviaire jusqu'à la fin de l'été. La question centrale reste bel et bien posée, Anne-Laure.
Un épiphénomène, pourrait-on dire, mais qui fait tâche, au moment où le gouvernement fait discuter une loi de mobilité visant à réduire sensiblement les émissions de GES causées par le transport routier. Ce qui explique probablement aussi la mobilisation sans précédent autour de la sauvegarde de ce train des primeurs. Politique, affréteurs, direction du marché de Rungis, SNCF, tout le monde est autour de la table pour tenter de le sauver. Afin d'éviter d'ajouter du trafic au trafic sur les routes de France, sans doute, afin de faire oublier que dans le transport de marchandises, la route continue de truster le marché, encouragé par les décisions politiques, sans doute également.
Tombe les kilomètres le long des longs camions sauvages. Le monde est mon camion sauvage, mort les poulets.
Il est loin le Grenelle de l'environnement qui avait fixé un objectif de 25% de non-routiers dans le transport de marchandises. À l'époque, c'était à l'horizon 2012. En 2017, on estimait que les camions transportaient 80% des marchandises dans l'Hexagone et hors Hexagone, une tendance qui ne s'érode pas et qui s'appuie sur 400 000 emplois de transporteurs routiers et près d'1,5 million de personnes dans tout le secteur transport et logistique, le tout pour un chiffre d'affaires de 53 milliards d'euros. Un poids économique qui semble bien avoir balayé toutes les bonnes intentions politiques de développer le fret ferroviaire et maritime. Si le transport fluvial se développe un peu, il reste minoritaire avec environ 5% des marchandises transportées. Le fret ferroviaire, lui, n'a connu qu'une longue décadence. Entre 1995 et 2005, alors que le transport de marchandises par rail se développait dans toute l'Europe, il baissait de 15% en France. Aujourd'hui, les trains français transportent moins de 10% des marchandises à cause d'un désinvestissement complet des pouvoirs publics dans ce moyen de transport, d'un réseau vieillissant, d'une structure trop coûteuse, ainsi que de nombreux goulots d'étranglement à proximité des principales agglomérations. Sans compter l'ouverture à la concurrence du fret ferroviaire qui n'a rien arrangé. En 2017, l'activité fret de la SNCF essuyait 120 millions d'euros de pertes et un énième plan de relance était présenté. Pas de quoi faire le poids devant une armada de camions dont le principal avantage, ou le principal inconvénient, tout dépend du point de vue, est la compétitivité. Avec des routiers, notamment venant des pays de l'Est, dont les salaires défient toute concurrence, des camions qui roulent au diesel non taxés, une fiscalité avantageuse et cet argument ultime qui encore aujourd'hui reste un moyen de pression très efficace, le chantage à l'emploi. Il marche particulièrement bien dès que revient sur la table toute idée de taxation du gazole routier, dont les transporteurs sont jusqu'à aujourd'hui exonérés. Le transport routier des marchandises est trop bon marché en Europe, c'est le problème. À long terme, c'est mortifère car les files ininterrompues de camions abîment les chaussées, engorgent le trafic, polluent l'air ambiant. Mais tant qu'ils seront compétitifs, le fret routier et maritime ne pourra pas se développer et le train des primeurs de Rungis pourrait ne devenir qu'un vieux souvenir.
Quelques mots de la météo de ce samedi après-midi avant de refermer définitivement cette édition. Temps globalement maussade, souvent pluvieux, ciel couvert sur l'ensemble du territoire, parfois orageux. Édition préparée avec Benjamin Ducy, à la technique Jordan Fentes.